Voilà, nous sommes là ensemble, c'est notre troisième soirée. Je suis heureux de voir que cette thématique trouve un écho dans votre cœur, bien plus qu'un écho, bien plus que de vous travailler. J'espère qu'elle vous donnera envie de rentrer dans des dimensions nouvelles et puis d'intégrer le jeûne et la prière dans votre discipline spirituelle. Nous sommes là pour retrouver la dimension du jeûne biblique. Il y a des jeûnes qui sont efficaces, agréables à Dieu, d'autres qui ne sont pas agréables à Dieu, donc pas efficaces. Le jeûne, il faut bien le comprendre parce qu'on s'est débarrassé de toute pensée légaliste, de toute pensée méritoire. Le jeûne n'est pas un passe-droit. J'ai rajouté ça dans mes notes ce soir. Le jeûne n'est pas un passe-droit. Il ne peut pas se substituer aux autres principes du royaume de Dieu. Chaque principe doit être compris, appliqué, reçu, mis en pratique, et jeûner ne me dispense pas de pardonner. Jeûner, c'est ce qu'on a vu hier, ne me dispense pas de me repentir quand il faut que je me repente. Jeûner n'est pas un passe-droit. Jeûner ne me dispense pas d'honorer Dieu avec ma dîme et mes offrandes. Et ce n'est pas parce que je donne la dîme et l'offrande que je peux être dispensé de pardonner ou inversement. Chaque principe est important et le jeûne n'est pas un passe-droit, il ne va pas annuler d'autres principes. Ah oui Seigneur, mais tu vois, mais moi je jeûne. Nous avons vu hier dans le livre du prophète Joël que le jeûne accompagne le retour de cœur à Dieu. C'était l'expression d'une repentance sincère. Dieu dit « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes ». Parce que dans ce jeûne, il y a toujours la notion d'humilité, humiliation, humilier son âme, mettre son cœur à nu devant Dieu. Et Dieu dit « Ne déchirez plus vos vêtements, déchirez plutôt vos cœurs ». C'était parce que le pays était dévasté, parce que le peuple devait prendre conscience de son état spirituel et qu'en réalité il était très loin de l'abondance que Dieu avait promise. Alors il y avait effectivement un constat de désolation, il y avait d'extraordinaires promesses de restauration et entre la promesse et l'accomplissement, il y a un seul mot qui est le pivot central de tout le livre du prophète Joël, pour ne pas dire le pivot central de toute la Bible. C'est le mot « repentance ». Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. On a vu aussi que le jeûne permet de retrouver la vision de qui est Dieu, de ce qu'il peut faire. On a vu aussi que le jeûne permet de... Alors que moi, je ressens une faim et une soif physique, plutôt une faim parce que je vous ai dit qu'il fallait beaucoup s'hydrater, le jeûne permet de ressentir la faim et la soif de Dieu. Pas seulement cette faim que moi j'éprouve, puisque oui, Dieu dit, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Je jeûne, premièrement, parce que j'ai faim et soif de lui. Je jeûne dans un profond désir, une profonde volonté, une volonté réelle de revenir de tout mon cœur à lui. Mais quand je jeûne, je me rends compte que je ressens sa faim à lui. Je ressens sa soif à lui. Parce que Dieu se languit de nous, parce que Dieu a soif de nous, parce que nous lui manquons, parce que Dieu a soif de rebâtir des vies, il a soif de pardonner, il a soif de guérir des cœurs, il a soif de guérir des corps, il a soif de ramener ceux qui sont dispersés, ceux qui sont captifs. Je ramènerai vos captifs, dit Dieu dans le prophète Joël. Je ramènerai vos captifs. Et Dieu a soif de tout cela. Et si on a réalisé ces étapes, ces deux premières étapes, s'il y a cette connexion de cœur entre nous et Dieu dans ces temps de jeûne et de prière, alors nous sommes prêts pour l'étape suivante. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle du jeûne d'intercession et qu'on aille ensemble dans le livre de Daniel. Il y a plusieurs exemples de jeûne dans le livre de Daniel, mais pour le jeûne d'intercession, il faut prendre Daniel chapitre 9 au verset 1er. Daniel chapitre 9, verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre, c'est une façon de s'humilier. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ta parole. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Et ensuite, il y a toute la prière d'intercession de Daniel. Je ne veux pas tout lire ce soir, ce serait trop long. La première chose qui m'a marqué dans cette méditation, c'est le verset 2. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et c'est ce que l'Éternel avait dit à Jérémie, le prophète. Je sors un principe de ce verset. Lorsque je jeûne et que je prie, mon jeûne et ma prière sont indissociables de la parole. C'est comme avec la série de méditations sur la vie de l'esprit. L'esprit et la lettre sont indissociables, sont comme deux rails qui me permettent d'avancer et de ne jamais aller dans le mur, de ne jamais dérailler. La parole écrite, inspirée, éternelle, infaillible, ne peut pas se dissocier du jeûne. Ce n'est pas parce que je jeûne et que je prie que la parole... Le jeûne et la prière va être exercé sur la base de la parole comme deux rails indissociables. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours ressenti ça. La parole m'a toujours poussé à la prière, voire même au jeûne et à la prière. Mais le jeûne et la prière m'a toujours repoussé et m'a toujours ramené à la parole. Et c'est toujours l'un et l'autre, jamais l'un sans l'autre. Parce que si je commence à jeûner et prier et partir dans mes délires sans ce cadrage indispensable et salutaire qu'est la parole, là aussi il peut y avoir bien des dérives. Alors c'est effectivement un principe qui me garde, qui me protège, qui m'encadre, mais ça va être aussi la parole. La parole, c'est la voix de Dieu qui va allumer des signaux dans mon cœur, qui va mettre des choses en marche en moi et qui va me pousser. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Il a été poussé à se tenir devant Dieu pour des circonstances particulières. Ce qui ne serait pas arrivé sans la parole. Vous comprenez? C'est la parole, c'est la promesse qui a poussé Daniel à tourner sa face vers Dieu. Je ne tourne pas ma face vers Dieu pour n'importe quel mobile, parce qu'il y a bien des mauvais mobiles dans, malheureusement, notre pratique du jeûne et de la prière. Je tournais ma face vers Dieu en jeûnant. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, verset 3, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant. Tourner sa face vers Dieu, là aussi c'est un mobile dont on avait déjà parlé, c'est une simple confirmation. C'est Dieu que je cherche premièrement. Et quand je tourne ma face vers lui, ce qui est vraiment salutaire, c'est pas seulement pour lui réclamer, c'est pas seulement pour supplier, c'est que tourner ma face vers Dieu m'oblige à détourner ma face de l'adversité. Ça m'oblige à me détourner de mes ruines. Oui, hier soir, on a vu, il y a un temps pour considérer les ruines. Il y a un temps pour considérer le pays lorsqu'il est dévasté. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'humilier. Il y a un temps pour revenir de tout son cœur à Dieu. Il y a un temps pour déchirer son cœur. Il y a un temps pour regarder les problèmes en face et les appeler par leur nom. Mais il y a aussi un temps pour détourner ses yeux de ses échecs, de ma difficulté, de mes ruines, de mes impossibilités, de mes épreuves, parce que si j'ai toujours les yeux dessus, c'est un autre extrême et ça n'ira absolument pas mieux. Alors quelqu'un dirait peut-être, mais est-ce que je ne peux pas tourner ma face vers Dieu sans le jeûne? Est-ce que ce n'est pas ce que je fais déjà régulièrement dans ma vie personnelle avec Dieu? Je tourne ma face vers lui. Je n'ai pas besoin nécessairement de jeûner ou pour prier. Je peux lire, je peux méditer, je peux tourner ma face vers Dieu, je peux intercéder, je peux, sans jeûner. Oui, je peux le faire sans le jeûne. Mais l'enseignement biblique, les exemples que la Bible me montre de jeûne efficace, va me permettre d'aller beaucoup plus loin dans la présence de Dieu et d'aller beaucoup plus loin dans les sphères célestes. Le jeûne et la prière, quand ils sont pratiqués dans les conditions bibliques, constituent une puissance spirituelle que beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs sous-estiment et ne connaissent pas réellement. Le jeûne et la prière, c'est une porte ouverte vers une nouvelle dimension. Le jeûne et la prière, j'ai toujours dit, à chaque fois et encore ce soir, le jeûne et la prière. Le jeûne et, vous vous souvenez de ce qu'on a vu ensemble, je ne redis pas tout. Le jeûne et la prière sont une porte ouverte vers l'impossible. Le jeûne et la prière constituent une arme spirituelle redoutable, efficace, pourvu qu'elle soit bien pratiquée. Et quand je jeûne et quand je prie dans la pensée biblique, il se passe beaucoup de choses dans les sphères célestes. Et j'ai accès par ce moyen-là à des sphères dans lesquelles je n'aurais jamais accès autrement que par le jeûne. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Quand le jeûne rejoint la prière, il y a une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de la puissance de Dieu. Lorsque les disciples sont venus voir Jésus, Matthieu 17, ils lui ont dit « Seigneur, maître, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon ?» Un, c'est à cause de votre incrédulité, c'était un problème de foi. Un, c'est à cause de votre incrédulité. Deux, cette sorte ne sort que par le jeûne et par la prière. Et là, évidemment, Jésus est en train de montrer que par le jeûne et la prière, je rentre dans des dimensions spirituelles, j'ai accès à des sphères, à des lieux célestes dans lesquels il y a, oui, par le jeûne et la prière, il y a une nouvelle mesure d'onction, il y a une mesure de délivrance, il y a une mesure de libération, une mesure de chaîne brisée, il y a une percée qui est possible dans le monde spirituel, il y a une action de Dieu, il y a un recul de la puissance démoniaque, mais ça ne se fait que par le jeûne et la prière. Et c'est simplement une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Daniel a expérimenté ces dimensions dans d'autres sessions de jeûne une autre fois. Forcément, un jour, on parlera du jeûne des 3 semaines, du jeûne de Daniel 10. Mais ce n'est pas le sujet pour ce soir. Mais il a expérimenté, il est allé beaucoup plus loin dans le combat spirituel, dans les sphères célestes. Et il faut absolument aller là. Parce que c'est dans ces sphères spirituelles, c'est là que ça se passe. Parce que vous savez aussi bien que moi, depuis 40 ans, que ce n'est pas parce que vous avez prouvé à quelqu'un par A plus B que Jésus est le sauveur du monde, qu'il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et des arguments, on en a. La belle doctrine, on l'a. Je sais qu'il y a 65 prophéties qui annoncent la venue du Christ. On peut très bien prouver par A plus B qu'aucun autre leader religieux n'a été annoncé, que seul Jésus a été annoncé, confirmé de toutes les façons possibles et imaginables. Je peux vous prendre 65 prophéties, mais de toute façon, le gars en face, il vous regarde, il vous dit « bel exposé, mais moi, ton Jésus, j'en ai pas besoin ». Et vous, vous avez discuté pendant 3 plombes, il ne s'est rien passé. Parce qu'il y a une mesure dans le jeûne et la prière pour aller dans les sphères célestes. Parce que les gens, les âmes, on ne les gagne pas sur la terre. La terre, c'est les 5% restants, c'est juste la moisson, c'est le... Les âmes, on les prend dans les sphères célestes. C'est là qu'on les arrache. Et c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins, parce que comme la vie de l'esprit, la discipline du jeûne et de la prière est une discipline qui se perd de plus en plus. Ah, dans les églises, ça, le jeûne rituel traditionnaliste évangélique du premier dimanche du mois, ça, on connaît. Mais on attend encore les nouvelles naissances, les conversions, les démons chassés, les guérisons de cœur, les guérisons de corps. On attend encore la dimension de puissance, de surnaturel de Dieu. On l'attend encore. Parce que les âmes, on les arrache aux griffes de l'enfer. Parce que ce sont des morts spirituelles. Parce que ce sont des prisonniers. Parce que ce sont des captifs. Parce que ce sont des esclaves. Il faut comprendre, il faut voir, discerner dans les lieux célestes, les prisonniers, les captifs, les esclaves. Et il faut les délier. Et comment on les délie? Avec nos arguments bien ficelés. Vous savez comme moi que ça fait longtemps que nos arguments... D'ailleurs, on en a tellement plus d'arguments qu'on ne dit plus rien. On s'est réfugié derrière le « Oh, ben, faudra bien qu'un jour il prenne sa décision. » Ce qui est quand même vrai, dans une certaine mesure. Il faut que les chaînes tombent. Il faut, comme dit Paul quand il dit « Nous avons été transplantés dans le royaume du Fils de son amour ». Transplantés, ça veut dire qu'il a fallu prendre une plante, il a fallu la déraciner, il a fallu l'arracher. Il y a certaines plantes, vous avez déjà essayé de les déraciner, vous ? Si vous tombez sur du chien dent, eh bien bon courage, hein. Et comment je vais déraciner de cette terre spirituelle ? Comment je vais déraciner des âmes et les transplanter ? Ah, ça se joue que dans les sphères célestes. D'où la nécessité d'avoir cette arme spirituelle bien aiguisée qui s'appelle le jeûne et la prière. Verset 4. Je priais l'Éternel mon Dieu, dit Daniel, je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Confession ? Pourquoi on parle de confession ? Il a fait cette confession. Oui, chaque personne qui jeûne avec la bonne disposition sera toujours amenée par le Saint-Esprit à une confession authentique. Parce que l'Esprit, il fait ressortir des choses. Parce qu'il commence par déraciner ce qui doit être déraciné dans mon propre cœur. La confession, elle est indispensable. Elle fait partie du retour de cœur à Dieu. Notre tendance humaine à nous, c'est de tout dissimuler. C'est d'esquiver. On passe à autre chose. On veut dissimuler le péché. On veut dissimuler les blessures. On a, comme Adam, vous savez, hein, il n'y a pas que Adam qui a ses feuilles de figuier. Hein. On a aussi nos feuilles de figuier. J'ai la feuille de figuier de « c'est la faute des autres ». J'ai ma couche d'excuses. Je mets une petite couche de religiosité, je mets une petite couche d'activité pour soulager ma conscience. Le jeûne, c'est de mettre son âme à nu, c'est de s'humilier, changer d'état d'esprit, changer de point de vue, changer de façon de penser, changer de façon de parler, changer de façon de se comporter, déchirer son cœur. Oui, il y a des chaînes à l'extérieur, mais il faut déjà que les chaînes dans mon propre cœur puissent déjà tomber et que je ne vive pas écrasé sous des joues destructeurs. Frères et sœurs, s'il y a des gros combats qui se livrent dans les sphères célestes, il y a des combats tout aussi importants dans cette partie intime de mon être qui est ma vie intérieure, ma vie spirituelle. Et là, il y a des combats, peut-être non seulement tout aussi importants, mais bien plus importants, puisque, comme je vous l'ai dit, je ne pourrais jamais délier quelqu'un si moi, je ne suis pas délié moi-même. Et avant de pouvoir délier quelqu'un dans le monde spirituel, il vaudrait mieux que j'aie remporté des grandes victoires à l'intérieur, sur moi-même. Alors, ça, c'est valable pour nous tous. Maintenant, je suis d'autant plus surpris à la lecture de ce texte, que, je m'excuse, non, ça ne concerne pas Daniel. Daniel n'est pas concerné. Daniel est un homme impeccable. On lit ensemble, s'il vous plaît, dans le livre d'Ézéchiel, une petite perle, au chapitre 14. Ézéchiel, chapitre 14, au verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étende ma main sur lui, si je brise pour lui le bâton du pain, si je lui envoie la famine, si j'en extermine les hommes et les bêtes, mais qu'il y ait au milieu de ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Si j'étais sur le point de détruire un pays à cause de son péché et de son infidélité, mais que je trouve au milieu de ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur propre justice. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne passerait à cause de ces bêtes, mais qu'il y ait au milieu de ce pays ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fille, ni fils, eux seuls seraient sauvés. Le pays deviendrait un désert, mais eux seuls seraient sauvés. Noé, Daniel et Job sauveraient leur âme par leur propre justice. Alors là, on se sent tout petit. Hein. Alors, pourquoi Daniel, verset 5, fit-il cette confession en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés ». Et si vous lisez toute la prière de confession, vous allez vous rendre compte qu'on est toujours dans le « nous ». Attends, comment est-ce que je peux demander pardon à Dieu pour les fautes des autres ? Comment est-ce que je peux demander pardon à Dieu pour des fautes que je n'ai pas commises ? Je ne leur ai pas demandé de pécher. Vos enfants, vous les avez enseignés à pécher ? Vous leur avez dit, il faut que tu pèches, il faut que tu sois désobéissant, il faut que tu partes en exil, il faut que tu sois un prodigue, il faut que tu gaspilles ta vie, il faut que tu mettes tout par terre. Vous ne leur avez jamais enseigné ça à vos enfants. Vous ne leur avez pas dit de pécher. Ils l'ont fait, mais vous ne leur avez jamais enseigné ça. Je ne les ai pas poussés à pécher, ces gens, Seigneur, bien au contraire. Je les ai avertis, je leur ai dit, j'ai parlé à ma famille, j'ai parlé à mes enfants, j'ai parlé à un tel, j'ai parlé, j'ai dit. Eh oui, mais c'est là toute la dimension du véritable intercesseur. Là, on rentre dans une sphère plus. On a quitté le domaine de la simple prière, on a quitté le domaine de la requête, on a quitté le domaine de faire connaître vos besoins à Dieu, on a quitté le domaine de faire connaître les besoins des autres, on a quitté le domaine de Seigneur, s'il te plaît, sauve-le, Seigneur, ouvre ses yeux, Seigneur, je ne sais plus quoi demander, de toute façon, depuis le temps, il me fatigue, Seigneur, sauve-le, enfin, fais quelque chose, quoi. Là, on est dans la dimension plus. On est dans une autre sphère spirituelle, c'est la dimension de l'intercession. Le véritable intermédiaire, le véritable intercesseur. Des hommes, comme il en existe peu dans la parole, des hommes de cette trempe, vous avez Néhémie, vous avez Esdras, vous avez Daniel. Si un jour vous voulez faire un super sujet d'étude de prière, d'intercession, vous méditez Néhémie 9, Esdras 9, Daniel 9. Et quand vous voyez ces hommes, rien dans la Bible me dit qu'à un moment ils avaient péché. Pourtant tous, ils ont cette tendance à dire « nous avons péché ». C'est la dimension de l'intercesseur, c'est celui qui va se placer entre la promesse de Dieu, entre Dieu lui-même, sa promesse, et puis celui qui est perdu. L'intercesseur, c'est celui qui se place entre celui qui est vivant et ceux qui sont morts. C'est celui qui se place entre la promesse et le bénéficiaire de la promesse, entre le saint et entre les pécheurs. Il va se tenir entre les morts et le Dieu de la vie. Il va plaider leur cause. Pas plaider au sens « Ah ben Seigneur, tu sais, faut comprendre quand même leur faute, c'est pas facile pour eux. C'est vrai qu'il y a des circonstances difficiles, ok, on n'aurait pas fait mieux à leur place. » Ah Seigneur, tu comprends, c'est dur pour eux, ah le pauvre petit. Non, si je fais ça, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de péché. Donc il n'y a plus besoin de la grâce de Dieu. Donc plaider la cause, ce n'est pas des circonstances atténuantes, on n'est pas dans un tribunal humain. Non, ce sont bien des pécheurs. Il n'a pas dit, Seigneur, ce n'est pas si grave que ça. Ben, vu que c'est mon fils, vu que c'est ma fille, c'est peut-être pas si grave que ça. Eh bien, si, c'est grave. Non, ce sont bien des pécheurs. Il s'est mis au rang des pécheurs. Il s'est mis au rang des coupables. Il s'est mis au rang des perdus. Et là, Daniel va manifester dans le jeûne et dans la prière. Je vous ai dit que le jeûne nous permettait de ressentir sa faim à lui, la faim de Dieu, la faim qu'il éprouve, la faim et la soif dont il souffre pour les âmes, pour les perdus. Et quand on est connecté dans cette dimension avec Dieu, dans le jeûne et dans la prière, on va manifester le cœur de Dieu, le caractère de Christ. C'est ce que Daniel a fait. Je ne peux pas le produire par moi-même. C'est vraiment une action de Dieu dans le jeûne et la prière. Si mon cœur est vraiment ouvert, si je me suis vraiment reconnecté à Dieu, si j'ai ressenti sa faim et sa soif à lui d'agir et de sauver les captifs. Il a manifesté le caractère de Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, dit Paul, l'intermédiaire, l'intercesseur suprême, celui qui, sur la croix, Jésus n'a pas porté nos péchés. Sur la croix, Jésus a été fait péché. Lui, le saint, le juste, le parfait, personne n'a 100% raison ou 100% tort sur cette terre. On a tous des torts partagés. Le seul qui avait 100% raison, c'était bien Jésus. Le seul qui était innocent, saint, juste, pur, irréprochable, c'était bien lui. Et quand il meurt sur la croix, il est l'intercesseur suprême, placé entre Dieu et les pécheurs. Il est l'intercesseur suprême. Et c'est lui qui a intercédé, mais c'est lui qui intercède encore pour nous aujourd'hui dans le ciel, dit la parole. Il intercède en permanence auprès du trône de Dieu pour nous. Et Jésus n'a pas porté le péché. Jésus n'a pas plaidé pour nous seulement. Jésus n'a pas fait une prière, il n'a pas fait monter une requête. Jésus s'est identifié à tout ce qu'il y avait de plus abject en nous, dans notre péché. Ça, c'est l'intercesseur. Et Daniel est rentré dans cette dimension de jeûne et prière et il a commencé à intercéder. Le jeûne va m'amener non pas à obtenir ce que je veux de Dieu, le jeûne biblique va m'amener à m'identifier aux pécheurs et à m'abaisser à leur niveau. Parce que dans le jeûne, comment vous dire, le jeûne, ça sent la mort. Le jeûne, dans le jeûne, même si on ne doit pas être triste, qu'on peut être profondément joyeux, d'avoir la vision de tout ce que Dieu veut, peut faire, ramener les captifs, tout ce qu'il veut faire, le jeûne, vous savez que c'est dur de jeûner. Parce que votre corps n'aime pas ça, parce que quelque part, il sent que c'est la mort pour lui. Quand vous jeûnez, c'est la mort de la nature charnelle. Et quand je commence à jeûner et à prier, mon esprit, qui est en communion avec l'Esprit de Dieu, reprend le contrôle de l'âme et du corps. Et c'est pour ça que c'est dur de jeûner. Parce que mon âme et mon corps, ça sent la mort. Ça sent la mort à soi. Et il y a un esprit, il y a cet état cet esprit de mort, de renoncement à soi dans le jeûne. Et c'est cet état d'esprit qui va aussi me permettre de m'identifier à ceux qui sont perdus. Alors quelqu'un d'autre dira, mais attends, les promesses de Dieu n'étaient pas suffisantes. Dieu a-t-il pas promis? Oui. C'est pas suffisant? Non. Mais les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, c'est écrit quand même. On a la même Bible. Alors les promesses de Dieu sont certaines? Oui. Mais si vous regardez bien, Dieu dans sa parole, dans toute l'histoire, sous tous les cieux, à n'importe quelle époque, il a toujours cherché des hommes à la brèche. Et il a toujours fait passer son plan par des intercesseurs. Les choses ne tombent pas toutes cuites du ciel. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Je vous ai dit dans un autre contexte lundi soir, mais je répète, dans le jeûne, dans la prière, face à une promesse de Dieu, je ne suis pas attentiste. Je ne suis pas fataliste. Je n'attends pas la promesse comme ça. Ça fait quand même 20 ans. Hein. C'est plus long que le bus. Hein. Et très souvent, frères et sœurs, pardon de le prendre avec humour, mais très souvent, nous sommes résignés. Nous sommes fatalistes. Nous attendons que ça tombe. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a des intercesseurs. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a des retours de cœur. Il y a un investissement de foi. Il y a un engagement de ma personne. J'ai besoin de m'investir de ma personne dans cette promesse. Et le jeûne est un excellent moyen de s'investir dans les promesses de Dieu. Amen. L'attitude de cœur de Daniel face à la promesse de Dieu pour les pécheurs m'interpelle beaucoup. Il aurait pu penser que, n'étant pas responsable, n'ayant pas péché, ce n'était pas son problème. Il aurait pu être attentiste. Si Daniel n'était pas rentré dans cette dimension, Dieu aurait trouvé un autre intercesseur. Même dans les périodes, écoutez-moi bien, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire du christianisme sur cette terre, Dieu s'est toujours trouvé des intercesseurs. Il n'a jamais rien fait sans la prière et sans l'intercession d'hommes et de femmes, même si c'était une poignée, pour que ses plans s'accomplissent. Parce que Dieu cherche des corps. Il cherche des cœurs pour battre, émus de compassion comme il l'est pour les perdus. Dieu cherche des yeux pour les voir, des yeux spirituels, pour voir ceux qui sont perdus. Dieu cherche des oreilles pour écouter celui qui a besoin qu'on l'écoute dans son malheur. Dieu a besoin de mes pieds pour aller. Dieu a besoin de mes mains pour agir, pour bénir, pour travailler. Dieu a besoin de mes entrailles pour enfanter. Il a besoin de moi. Et Dieu a toujours cherché des intercesseurs, des hommes qui se tiennent à la brèche. Daniel aurait pu être attentiste, passif. Il aurait pu être fataliste. Il aurait pu avoir de l'amertume dans le cœur. Si Daniel est en déportation, c'est la faute des autres, hein. Il est en déportation avec eux. Il n'est pas bien lové dans sa petite maison à Jérusalem. Là, on est au soir de sa vie. Il a passé toute sa vie en déportation à cause du péché des autres quand même. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'agacement. Mon frère, ma sœur, si quand tu jeûnes, quand tu pries, que tu penses à une personne, et qu'au moment où tu penses à elle, tu as un sentiment d'agacement. Je sais qu'il y a des gens qui ont le don d'aller de pousser nos enfants. Il y a des fois, c'est « Waouh, ça va loin, ça va très loin. » Et quelque part, l'agacement humainement, il est légitime. Avec un conjoint, avec des parents, avec des enfants, ils ont 40, 50, 60 ans. On leur a dit et redit, ils n'écoutent rien. Mais si au moment où je prie, j'ai un sentiment d'agacement, si quand je prie pour lui, j'ai peut-être plus envie de les triper, pardonnez-moi, j'ai plus envie de les triper que... Reviens au jeûne d'hier soir. Reviens au jeûne de repentance. Reviens au jeûne de retour de cœur. Reviens au jeûne où tu déchires ton cœur, où tu vas dire, Seigneur, mets en moi tes sentiments. Parce que pour être un intercesseur, il faut beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup d'humilité. Il faut la même humilité que Jésus avait. Humilité, humus, le sol, s'abaisser au point le plus bas. Et que je me dise, quand je prie, quand j'intercède, quand je jeûne, que j'ai cette compassion dans mon cœur et de dire, Seigneur, non, je ne suis pas mieux qu'eux. Si je suis là aujourd'hui, sauvé, sanctifié, debout par ta grâce, c'est vraiment par ta grâce. Et si tu étais venu me chercher, je ne sais pas comment j'aurais terminé. L'intercesseur, il a un sentiment, bien plus qu'un sentiment. L'intercesseur, il a le cœur de son maître. Il est doux et il est humble de cœur. Et il s'identifie. Il a la compassion pour les pécheurs. Vous savez, je me mets dedans. Vous savez pourquoi on manque d'onction? Parce qu'on manque de compassion. La puissance de Dieu qui libère l'onction, c'est la compassion. Jésus était ému, saisi. Il n'avait pas de la pitié. Jésus n'a pas de la pitié pour nous. Jésus a de la compassion dans ses entrailles. Il est ému de compassion. Il souffre de la souffrance dont je suis responsable. Alors qu'il n'y est pour rien. C'est la compassion qui a donné autant, en plus de la vie de l'esprit, tous les principes spirituels. Oui, amen. Mais la compassion est une clé qui va libérer l'onction dans la prière, dans le témoignage. J'ai besoin de cette humilité, j'ai besoin de cette compassion, j'ai besoin du cœur de Dieu, j'ai besoin d'avoir cette dimension spirituelle, j'ai besoin de m'identifier au pécheur en me disant, Seigneur, si tu n'étais pas venu me chercher, c'est peut-être moi qui serais à cette place-là. Et c'est peut-être moi qui serais là où ils sont en ce moment. Et l'attente de la foi, l'attente de Daniel n'était pas attentiste. Elle n'était pas oisive, son attente était active. C'est l'attente active de la foi. Et la foi, c'est une démonstration. Et pour démontrer ta foi, Bah, 3 jours de jeûne, impeccable. Investis-toi dans la promesse de Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Il n'a pas jeûné. Ce n'est pas le fait de jeûner. Jeûner ne va pas faire en sorte que je mérite que Dieu accomplisse sa promesse. Jamais. On a banni toute notion de légalisme et de mérite lundi soir. Le fait de jeûner ne va pas faire que je mérite l'accomplissement de la promesse. C'est parce que je suis fermement convaincu que les promesses de Dieu sont oui et amen, que je vais m'investir personnellement, je vais investir tout ce que j'ai, tout ce que je suis, jusqu'à ce qu'il y a de plus légitime, manger, jusqu'à ce qu'il y a de plus légitime pour m'investir dans la promesse. Et celui qui jeûne dans cet état d'esprit démontre sa foi, démontre son investissement, démontre sa détermination, sa volonté. Et le jeûne, c'est un excellent moyen de s'investir. Se tenir devant Dieu pour l'accomplissement d'une promesse que je sais être certaine, mais pour laquelle je sais aussi que Dieu cherche un intercesseur, quelqu'un qui s'identifie, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui a de la détermination. Dieu cherche toujours des hommes et des femmes à la brèche pour intercéder pour les perdus, pour les captifs. Daniel s'est tenu devant Dieu pour les captifs. Il s'est offert, il s'est investi pour être acteur de ce combat. Oui, Daniel a jeûné. La parole ne suffisait pas. Il y a eu un recours à une dimension spirituelle particulière pour un enjeu spirituel particulier. Daniel a mesuré l'enjeu spirituel, il a mesuré l'ampleur de la promesse, et devant une telle promesse qu'il a reçue avec foi comme oui et amen, il s'est investi de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son jeûne, il s'est investi dans cette dimension-là. Je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut faire de nous ses intermédiaires, ses médiateurs, ses intercesseurs. Et chacun d'entre nous ce soir, on peut l'être. Et c'est tout à fait logique. Hier soir, je vous ai dit que lorsqu'on arrivait dans ce jeûne de repentance, dans ce jeûne de retour de cœur à Dieu, on s'approche, on tourne sa face beaucoup plus vers Dieu, on déchire nos cœurs. Et quand le cœur est déchiré, qu'il est exposé, qu'il est mis à nu devant Dieu, Dieu peut y faire ce qu'il veut, il peut enlever ce qu'il veut. Et le jeûne concerne déjà premièrement le changement, la transformation, concerne déjà mon retour à Dieu. Et Dieu peut faire ce qu'il a à faire dans mon propre cœur. Je parle en langue, je lui parle, je suis à son écoute, je suis attentif. Je laisse Dieu m'opérer, je suis sur la table d'opération de Dieu, j'aime pas ça. Mais il est en train d'opérer mon cœur, il est en train d'enlever tout ce qui doit être enlevé. Et une fois que ça c'est fait, puisque mon cœur est grand ouvert, puisqu'il est vide, puisque je suis tout proche, Dieu peut réécrire des promesses dans mon cœur. Amen.